Bonsoir, mais comptent-ils tous les géants de la tech à miser sur la France pour développer des centres de recherche sur l'intelligence artificielle? Facebook, Google, et puis il y a Microsoft qui inaugurait hier sur leur campus à Issy-les-Moulineaux une école pour des étudiants qui ont décroché et qui viendront se former à l'intelligence artificielle. Vous savez, cette intelligence artificielle qui constitue des enjeux considérables, un potentiel gigantesque qui va transformer notre vie, vie professionnelle, vie personnelle. Alors, est-ce qu'il faut l'apprendre, cette intelligence artificielle? Est-ce que c'est la nouvelle matière à apprendre? Est-ce que c'est la voie royale désormais? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, je sais que ça vous passionne et ça vous fait poser beaucoup de questions, cette intelligence artificielle. On va en parler justement avec celui qui a inauguré hier, eh bien, cette nouvelle école consacrée à l'intelligence artificielle sur son campus. C'est Carlo Purasanta, le président de Microsoft France. À ses côtés, une étudiante qui va suivre le cursus, Nisha Alavoudine. Elle est étudiante à cette école de l'intelligence artificielle de Microsoft. Je vais vous la présenter dans un instant. Il y a également Laurent Moisson, qui est vice-président de Business et Décision, spécialisé dans le conseil en transformation digitale. Une entreprise associée à cette école qui va justement intégrer en formation, eh bien, certains des élèves. Laurence de Villers, elle est chercheure au CNRS, spécialiste de l'intelligence artificielle, professeure à Sorbonne Université. Elle vous propose des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités. Et puis Thomas Sabatier, fondateur de The Chatbot Factory, start-up spécialiste des messageries intelligentes qui travaille notamment avec Google, avec Facebook, avec Air France, avec BNP Paribas, Auchan, voilà. Que des grands noms. Alors, une école de l'intelligence artificielle donc inaugurée hier, pourquoi faire exactement? Vous voulez démocratiser l'intelligence artificielle, Carlo Purasanta?
Ben, on considère en fait que c'est une très grande opportunité. La France, d'ailleurs, c'est un pays qui a des grandes opportunités dans l'opportunité. C'est-à-dire que les notions mathématiques, la culture mathématique que la France a et la formation qu'on donne à nos jeunes est une base excellente pour pouvoir traiter cette opportunité et faire en fait de la croissance économique. Croissance économique, croissance sociale, permettre à tous d'avoir des nouvelles opportunités. Pour ce faire, ben, nous avons besoin de développer les compétences, parce que la technologie va très très vite, et donc nous devons commencer à former nos jeunes sur des métiers de demain. En fait, il y a des études qui disent, des enfants qui sont dans l'école primaire aujourd'hui, deux tiers d'entre eux feront des boulot qui n'existe pas aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'il faut former, il faut former à se former toute la vie.
On dit que 85% des emplois qui seront exercés en 2030, ils n'existent pas encore. Exactement. Aujourd'hui. Et parmi eux, on dit que l'intelligence artificielle beaucoup, devrait créer des millions de postes.
Intelligence artificielle, réalité mixte ou réalité augmentée, donc les mondes tridimensionnels dans lesquels on va évoluer. Et l'intelligence artificielle, notamment, c'est vraiment la vague des 2, 3, 4, 5 prochaines années.
Il faut la saisir.
Voilà. Et quand je discute donc avec mes collègues qui sont nos partenaires sur le territoire français, ben souvent nous avons une discussion sur, oui, il y a une opportunité, nous discutons ça avec les clients, il y a un grand appétit des entreprises françaises et des organisations publiques aussi, sur utilisation de nouveaux services basés sur l'IA. Et après, tout de suite, deuxième discussion, c'est « mais il n'y a pas encore tous les skills nécessaires ». Et nous, on veut justement, avec cette école, commencer à créer les compétences et surtout faire aussi une démonstration de la chose suivante. C'est-à-dire que pour faire de l'intelligence artificielle, bien sûr qu'il y a besoin d'experts qui puissent faire des doctorats, qui soient vraiment très très forts et très pointus sur la compréhension des données, des algorithmes, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il y aura que des métiers comme ça. Il y a aussi des métiers de développeurs d'intelligence artificielle.
Vous allez nous raconter un peu ce qu'on va trouver comme métier.
Un spectre de compétences.
Ouais. Alors, une nécessité, hein, nous disait tout de suite Carlo Purasanta, le président de Microsoft France. Je cite le secrétaire d'État, Mounir Majoubi, qui assistait hier à l'inauguration. Que disait-il hier? 13 millions de Français ne savent pas utiliser les outils numériques. Nous avons une mission d'expliquer, sinon ça va mal se passer. Oui. Il faut enseigner l'intelligence artificielle. Laurence de Villers, vous chercheur au CNRS.
Oui, je suis professeure à la Sorbonne. J'enseigne aussi l'intelligence artificielle pour former aussi des doctorants, comme vous l'avez dit, donc des experts. Je pense que c'est extrêmement utile, hein, les projets que vous menez autour de ces sujets. On enseigne aussi non seulement en fait l'utilisation des algorithmes d'intelligence artificielle, mais aussi le soin qu'on prend à sélectionner les données, qui me paraît un point extrêmement important qu'il ne faut pas sous-estimer. Donc sur l'évaluation aussi des systèmes, il y a des choses à faire et je parle beaucoup d'éthique en fait à mes étudiants pour expliquer quelles sont les bonnes pratiques à avoir. Et donc je serais ravie si un jour vous avez besoin aussi de un coup de main pour insuffler l'éthique au sein d'écoles comme la vôtre.
Elle tend la main en direct sur le plateau de BFM Business, donc au patron de Microsoft France. Voilà, elle ne perd pas son temps.
C'est important.
Très bien. Oui, très bien. Thomas Sabatier, pour répondre à la question, pourquoi est-ce qu'il faut enseigner l'intelligence artificielle en France?
Alors, je reprends le chiffre que vous venez de citer. 85% des métiers qu'exerceront nos enfants et nos petits-enfants n'existent pas aujourd'hui. Chez The Chatbot Factory, on a déjà commencé cette révolution. On a créé des nouveaux métiers, des métiers autour de l'intelligence artificielle, mais pas seulement. Donc, nous, on crée des robots conversationnels qui sont destinés à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée qui aujourd'hui sont faites par des humains. L'intérêt, c'est de pouvoir apporter de l'automatisation là où l'humain n'a plus d'intérêt à travailler et à intervenir. Pour faire cette automatisation, on a besoin de nouveaux métiers comme des bot masters ou des bot trainers. C'est donc des personnes qui vont entraîner les algorithmes à mieux comprendre, à être de plus en plus intelligents, de plus en plus performants. Et ces métiers, il y a encore 2 ans, n'existaient pas. Donc nous, on a aujourd'hui l'obligation de former nos propres talents. Donc on se base sur des personnalités très agiles et des profils qui ont appris à apprendre. Et derrière, on construit, et ça c'est important, et c'est une révolution aujourd'hui dans l'enseignement, c'est qu'on doit apprendre à apprendre. Et derrière, le rôle de l'entreprise, et notamment des startups, mais pas que, et on voit avec les initiatives des grands comme Microsoft, Google, Facebook et d'autres, peuvent aussi nous apporter de la valeur là-dessus et nous aident aujourd'hui à créer les nouveaux métiers et à construire les nouvelles compétences de demain.
Ah oui, nouvelles compétences de demain. Laurent Moisson, des initiatives comme celle de Microsoft, on voit également Facebook, on voit également Google qui lancent des initiatives du même genre, et on va y revenir bien entendu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à l'école, à l'université française, on ne trouve pas ce type de talents, justement, il faut aller les former ailleurs?
Alors, on en trouve. On en trouve d'ailleurs de bonne qualité. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas assez.
Oui.
Donc, on est ravis qu'un grand partenaire comme Microsoft prenne là-dessus ses responsabilités, qui est bien placé pour faire ça, qui le fait d'ailleurs très intelligemment, puisqu'il s'appuie sur une structure pédagogique qui existe déjà et qui s'appelle Simplon. Donc, nous, on a besoin de ces talents. On a d'ailleurs paradoxalement besoin de plus de talents techniques que de maestros de l'intelligence artificielle où effectivement il y a des gens qui ont des doctorats, qui ont des choses comme ça et qui aujourd'hui sont parfaits, enfin probablement pas en nombre suffisant, mais en tout cas existent.
Ouais, ouais.
Et on a plus de mal à trouver des gens qui vont coder, qui vont justement faire ce travail d'implémentation de ce que des data scientists vont pouvoir imaginer.
C'est ça, je vous donne la parole dans un instant, Nisha Lavoudine, étudiante de cette première promotion à l'école de Microsoft. C'est quoi le profil des élèves que vous recherchez? Donc, il y a une première promotion de 24 étudiants en reconversion professionnelle, éloignés de l'emploi ou décrocheurs scolaires. C'est un petit peu la condition. Ils ont de 19 à 39 ans. Vous les recrutez comment? Sur quels critères?
Alors, nous avons regardé les critères suivants. D'abord, il faut une base mathématique statistique.
Bon.
Parce qu'il faut quand même un appétit pour ça. Si on fait intelligence artificielle, il faut comprendre les mécanismes derrière.
Les données, les kilos, de la littérature, priori, non.
Il faudrait faire un petit peu de mathématiques et statistiques avant de se mettre à faire du code et de l'IA ensuite. Donc, ça, c'est un premier besoin. Deuxième, la passion quand même pour le développement du code. Le code, c'est quelque chose de fantastique. Je le dis toujours, ça a la logique de la mathématique et ça a la créativité de la musique. Tu peux composer, quand on écrit un code, on compose. Mais c'est de la logique. En écrivant du code, tu peux créer des services qui vont impacter ton utilisateur final. Il y a de la magie dedans, je le dis sérieusement. Donc, d'ailleurs, quand on a discuté avec le secrétaire d'État hier matin, avec les apprenants, on a vu qu'il y avait un fil conducteur. Chacun s'est exprimé pour dire c'est la technologie bien sûr qui m'intéresse, mais c'est surtout pour avoir de l'impact sur ce domaine. Chacun a son domaine de prédilection. C'est ça qui est très beau. Donc le code, ensuite la communication, c'est important quand on développe des applications et des services pour un client final, et ben de savoir écouter d'abord, parce qu'il faut entendre les besoins, et ensuite reformuler pour être bien aligné. Un des problèmes de l'informatique a été dans le passé l'effet tunnel, c'est-à-dire j'écoute à peu près le besoin, je vais développer pendant un an, parfois il y avait des projets qui duraient 2 ans, on arrivait vers l'utilisateur final, donc celui qui a donné l'ordre de... Ben, en fait, le besoin, il avait changé, puis on n'avait pas bien compris, et donc, en fait, il y avait un peu de frustration des paroles d'autres qu'on ne s'était pas compris. Donc, l'écoute, la reformulation et la communication est très importante. Quatrième élément, la collaboration. Nous sommes dans un monde où la technologie est complexe, il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est pour ça que c'est pas l'université ou des écoles, c'est l'un et l'autre, parce qu'il faut continuer à apprendre. Et surtout, même si on se forme toute la vie, on a toujours besoin de se faire aider par les autres. Donc, ce que les apprenants vont faire pendant ces 7 mois, c'est vraiment de co-développer. Et ils vont se mettre à chaque fois à faire un projet avec des collègues qu'ils n'ont pas encore rencontrés pour dire, bah, tiens, là, c'est un autre contexte et je vais collaborer avec d'autres personnes, avec un background différent, avec des notions différentes. Et donc, c'est le fait d'être ensemble pour produire mieux.
C'est une promotion de 24 élèves, 7 mois, et ensuite ils seront dispatchés dans un centre d'entreprise, comme celle de Laurent Moisson, donc chez Business et Décision. Nisha Alaoudine, vous avez 24 ans, vous êtes ancienne professeure des écoles stagiaires, vous avez fait le bac S, bac bio, donc en effet pas forcément une formation littéraire. Comment est-ce que vous êtes retrouvée dans cette école de l'intelligence artificielle de Microsoft? C'est quoi votre vision de l'intelligence artificielle? Vous allez y faire quoi?
Alors, effectivement, moi, j'ai été apprentie professeure des écoles. Et il y a des choses qui m'ont marquée durant ces 1 an et demi d'expérience. L'écart de niveau entre les élèves, par exemple. Souvent, on disait de ces élèves-là qu'ils avaient des difficultés scolaires, qu'ils ne répondaient pas aux exigences scolaires. En réalité, c'était leur manière de réfléchir qui était différente. Et sur du long terme, c'est malheureusement ce genre d'élève qui va finir par décrocher parce qu'on n'a pas su comment l'aider, par manque de moyens, par manque de temps. Et c'est pour ça que moi, je suis aussi passionnée par l'informatique depuis toute petite. Donc je me suis dit, pourquoi ne pas créer une IA soutien pour les élèves qui pourrait s'adapter d'abord au niveau scolaire de l'élève et proposer des exercices spécifiques. Et une IA soutien aussi du côté du professeur qui allégerait son travail pour qu'il puisse passer beaucoup plus de temps avec les élèves. Ce qui manque aussi aujourd'hui en fait, parce qu'il y a beaucoup d'élèves et pas assez de temps. Tout ça pour... permettre à chacun de réussir dans de bonnes conditions.
Ouais, l'intelligence artificielle, on en parle souvent, on dit que c'est un énorme potentiel, des enjeux qui sont considérables dans notre vie professionnelle, notamment dans la vie de l'entreprise, hein, dans tous les domaines, bien entendu, dans le commerce, dans l'aéronautique, etc. Dans la vie personnelle également. Et puis souvent, on dit, oh, attention, l'intelligence artificielle, ça va un petit peu loin. Et c'est tout à l'heure Laurence de Villers qui nous parlait de cette notion d'éthique. On va y revenir avec vous dans un instant. Qu'est-ce qui fait que l'intelligence artificielle, comment vous arriveriez à convaincre ceux qui doutent encore un petit peu des bienfaits de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce qu'il faut poser comme limite ou pas?
Alors, je pense sincèrement qu'en fait, l'IA pourrait alléger le travail de l'humain. Les tâches répétitives.
Tout juste. Les tâches subalternes.
Souvent, il y a beaucoup de... Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en fait, qui font des tâches très répétitives et douloureuses aussi. Et ça pourrait venir le libérer de ce travail un peu lourd. Et je pense que c'est un aspect plutôt positif de l'IA.
Laurence de Villers, qu'est-ce qu'on doit trouver dans l'enseignement de l'intelligence artificielle? Cette nouvelle matière, quelque part, qui est nécessaire. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on doit y apprendre? Est-ce qu'il faut copier tout simplement ce que l'homme fait? Ou est-ce qu'on doit inventer quelque chose de nouveau, une nouvelle façon de penser? Avec de l'éthique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure peut-être.
Oui, moi je crois beaucoup à la créativité en fait, avec l'intelligence artificielle. On a tendance toujours à comparer avec ce qu'on fait maintenant et on ne sait pas du tout ce que ça va devenir demain. Et je pense qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'on pourrait apporter à l'humain, non pas pour le rendre paresseux, ça c'est un des aspects qu'il faut éviter quand même, à trop simplifier les choses, on risque de faire des gens qui vont subir plutôt qu'être consentant en étant avisé. Et donc les problèmes éthiques, je pense que sont importants aussi dans l'enseignement de l'informatique de l'IA, quoi. C'est-à-dire qu'il faut apprendre pas seulement à faire du deep learning ou des réseaux de neurones ou de l'algorithmique autour des données, mais qu'est-ce que c'est que ces données? Est-ce qu'elles sont bien calibrées? Est-ce qu'elles sont loyales, non discriminantes? Ça fait partie du jeu. Et de l'autre côté, il faut pouvoir évaluer le modèle que l'on a obtenu à la fin et l'évaluer avec des benchmarks, avec des standards. Et tant qu'on n'aura pas ça, ça sera difficile de faire confiance à ces machines qu'on appelle des boîtes noires. Elles sont très performantes pour certains objectifs, mais il faut pouvoir expliquer quand même. Donc nous, on pousse nous chercheurs et dans notre enseignement à plus d'explicabilité, de transparence. On sait qu'il y a des problèmes mathématiques derrière qu'il va falloir gérer. On sait aussi qu'il y a des problèmes de confiance, d'acceptabilité des gens pour aller aussi dans ces enseignements. Hein. Il faut aussi comprendre en fait effectivement à quoi ça va servir. Donc il faut humaniser en fait ces objectifs d'intelligence artificielle en comprenant bien. Alors la co-construction, moi, c'est quelque chose que je trouve très intéressant.
Thomas Sabatier, Laurent Moisson, comment est-ce qu'on humanise cette intelligence artificielle? Comment est-ce qu'on parlait de démocratisation tout à l'heure? Démocratisation, oui. Et ensuite, humanisation, justement.
Oui, alors le côté humain va vraiment accélérer l'adoption des intelligences artificielles. Et je parle souvent de des intelligences artificielles et pas de l'intelligence artificielle.
Applications sont nombreuses. Hein.
Voilà, tant les applications sont nombreuses et surtout très verticales. Et on voit justement une différence majeure avec l'intelligence humaine qui est plutôt horizontale et très adaptable et agile, alors que l'intelligence artificielle, malheureusement, est pour le moment encore très verticale et verticalisée. L'intérêt d'une intelligence artificielle, effectivement, c'est d'apporter de la valeur dans le quotidien des humains. L'idée aussi, c'est, en tout cas notre métier, c'est de faire disparaître les interfaces et de rendre l'interface absolument indolore pour l'humain, ce qui est aujourd'hui parfois une limite d'utilisation, notamment sur les outils informatiques. Et ça, l'intelligence artificielle va permettre justement, notamment sur la population des seniors, mais aussi d'autres populations, va permettre leur permettre d'utiliser des outils qu'ils n'avaient pas la possibilité d'utiliser avant. Et l'humanisation est une des parties qui va accélérer l'adoption par le plus grand la masse, parce qu'on va avoir l'impression de parler à quelque chose qui nous est familier et que la machine va parler notre langage. Et c'est une révolution en soi. C'est qu'avant, on devait apprendre à parler le langage de la machine et qu'aujourd'hui, on va devoir simplement utiliser la communication et la machine va simplement parler notre langage.
Alors vous me dites un mot, Laurence de Villers, et juste après, Laurent Moisson, business et décision.
Juste un mot sur les machines qui parlent. Il faut faire attention à ce qu'elles soient crédibles aussi et qu'on n'engage pas trop l'anthropomorphisation, c'est-à-dire qu'on ne pense pas que la machine a des capacités humaines alors qu'elle n'en a pas. Ça, c'est les problématiques éthiques qu'on essaie de mettre en avant. Je crois que c'est important de ne pas trop humaniser dans le leurre.
Laurent Moisson.
Parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Alors d'abord, effectivement, je pense que l'un des principaux champs d'application de l'intelligence artificielle, ça reste cette capacité à communiquer avec des machines, hein, c'est-à-dire rendre un accès à ces machines et, j'allais dire, la capacité à donner des instructions à ces machines beaucoup plus facile, et donc ça s'ouvre à des non-spécialistes. Voilà, ça, c'est le premier élément. Ensuite, pour rebondir avec ce que vous disiez immédiatement, c'est pas parce qu'une machine sait apprendre qu'elle sait comprendre. Hein. Ce sont deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que l'apprentissage, hein, une machine, un algorithme, ça sait ingérer de la donnée pour vous dire que si la donnée se reproduit à peu près à l'équivalent, alors je sais faire ça, parce que je l'ai déjà vu. Par contre, ça ne s'est pas extrapolé. Et donc, avant qu'une machine et qu'une intelligence artificielle sachent le faire, il va se passer du temps. Voilà. Donc, pour finir là-dessus, je pense que l'un des premiers éléments pour humaniser, en tout cas, la relation entre l'humain et l'intelligence artificielle, c'est de dépassionner les débats actuels. On n'est pas dans Terminator, on n'est pas dans des choses où les robots vont remplacer les humains immédiatement.
Bien, on a bien compris. On s'interroge ce soir, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est la nouvelle voie royale? On a expliqué le potentiel du marché qui est énorme, tous ces nouveaux métiers qui vont se créer. Vous nous le disiez notamment tout à l'heure, Thomas Sabatier et Carnot Purasanta. On dit qu'en France, c'est France Stratégie et le ministère du Travail qui le disent, 200 000 postes seraient à pourvoir dans le secteur du numérique d'ici 2022. Alors on voit, c'est un vecteur d'emploi, un vecteur de lutte contre le chômage. C'est bien des initiatives comme celle de Facebook, de Google, de Microsoft, notamment la vôtre, mais est-ce qu'on ne peut pas y réfléchir un petit peu plus tôt, justement? À quel âge on commence il faut commencer à sensibiliser les jeunes à l'intelligence artificielle? Est-ce que nos écoles sont bien équipées pour ça? Nos universités également? À votre avis, Carlo Purasanta, Microsoft France.
Je pense qu'effectivement, il faudrait commencer avec les enfants en âge scolaire. C'est-à-dire que dès 6 ans, peut-être même avant, je ne sais pas, mais sûrement dès 6 ans, il faudrait commencer à faire jouer les enfants avec le code, Moi, je pense personnellement qu'il faudrait que ce soit une matière un jour. Maintenant, voyons aussi les choses de façon positive. La France est une des nations qui a participé au fait d'ouvrir l'école à des gens, des experts comme nous et tous ceux dans l'écosystème informatique.
Pas assez nous, encore.
Pas assez, non. Mais la France est une des nations qui l'a fait le mieux. Et il y a beaucoup d'enfants, des dizaines de milliers d'enfants, c'est pas des millions encore, il faut y aller, mais on a des dizaines de milliers d'enfants, des centaines de milliers d'enfants qui ont eu la possibilité déjà d'avoir une petite, un petit essai de qu'est-ce que ça veut dire coder, et peut-être on a évoqué quelques vocations et quelques sensations positives. Maintenant, il faut que ça devienne encore plus fort. Certainement, il y a de l'intégration dans le cursus de nos jeunes sur le code, sur l'informatique, sur l'éthique, bien sûr, et sur toute la gestion de la technologie, comment ça impacte notre vie.
Dès 6 ans, vous qui avez été professeur des écoles stagiaires, Nisha Alaoudine, maintenant étudiant dans cette école de l'intelligence artificielle de Microsoft, c'est le bon âge ? Ou c'est trop tard, déjà ?
Non,
Allez-y, allez-y.
Je pense que oui, en fait, on peut... En fait, les enfants ont beaucoup de potentiel qu'on n'exploite pas. Ils ont des dispositions, je dirais. Des dispositions. Et l'informatique peut justement aller permettre de libérer plein de de permettre à ces enfants de libérer ses potes, enfin, de vraiment travailler cet aspect-là. Et voilà, en fait.
Carlo Pourasanta, juste.
Oui, juste pour rebondir sur la créativité des enfants. Un enfant qui utilise Minecraft pour créer des mondes, il le fait aujourd'hui, les filles, les garçons le font pour créer des mondes, pour jouer.
Oui.
Quand Minecraft est utilisé pour faire de la pédagogie, ça devient magique. Quand nous discutons avec des professeurs qui utilisent Minecraft pour engager des enfants à apprendre, l'attention est beaucoup plus élevée, l'engagement des enfants est beaucoup plus élevé. Ce qu'ils vont retenir de ce cours-là est plus important. Pourquoi ? Parce qu'ils ont participé. C'est pas juste un cours sur un chapitre d'histoire, c'est vous avez lu le chapitre d'histoire, maintenant créons ensemble des bouts de l'histoire. Donc les enfants se mettent en groupe. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit faire de la pédagogie seulement comme ça, mais je pense que c'est un ajout très important. Ça habilite les enfants à être avec leurs mains, avec leur cerveau, à créer des mondes. C'est la première chose avant de développer du code. Ça leur permet de travailler ensemble. Ça leur permet de dégager leur attention et leur créativité. C'est très puissant.
Thomas Sabatier, The Chatbot Factory, et Laurence de Villers, justement.
Oui, il y a une chose que peut-être l'école n'a pas vu venir, c'est que on a accéléré le cycle de l'innovation et on l'a raccourci. L'école aujourd'hui forme, si on prend le secondaire, forme des étudiants sur des durées de 5 ans. Aujourd'hui, 5 ans pour une entreprise, c'est une éternité. L'entreprise aujourd'hui a su s'adapter, notamment en devenant beaucoup plus agile. Ce qui me fait très plaisir, c'est de voir que justement, on a, grâce à des entreprises comme Microsoft, des entreprises qui se rapprochent de l'éducation et qui créent des programmes qui sont supportés par la réalité économique que supportent les entreprises, avec des cycles d'innovation qui sont raccourcis, donc des cycles de formation qui doivent être beaucoup plus agiles, et des cycles de formation qui sont aussi axés sur les applications que l'on peut faire de ce qu'on apprend à l'école. Et ça, c'est quelque chose de très très positif. Et c'est comme ça qu'on arrivera à relever les défis de demain, justement en apprenant à apprendre et à très vite en donnant une vision aux apprenants de ce à quoi peut servir le savoir qu'ils sont en train d'acquérir.
Ouais. Et Laurence de Villers, ça doit être une nouvelle matière dès l'école, le codage, l'intelligence artificielle.
Il y a beaucoup d'aspects en fait dans tout ça. Moi, je pense que c'est essentiel à la maternelle même de comprendre ce que c'est qu'un concept de boucle. On fait une répétition, mais pas forcément de coder. C'est-à-dire que les concepts fondateurs de l'algorithmique, on peut les appréhender assez jeunes, tout simplement par les jeux, et c'est essentiel. Ça peut être utile pour beaucoup d'aspects d'utiliser de l'informatique et de l'intelligence artificielle à l'école, discrimination, etc. Il faut pas oublier quand même les matières fondamentales. Hein. Il faut pas faire des enfants qui savent pas parler ni rédiger. Et je pense qu'il faut avoir toujours cette idée.
Il faut continuer à aller à l'école, même s'il y a tous les outils pour apprendre.
Il faut
chez
rester
soi,
aussi avec un crayon dans la main, avec un pinceau pour un peintre. Il faut rester sur l'essentiel, sinon on va perdre aussi beaucoup. Parce que ces machines sont facilitantes. Quelque part, elles vont être aussi notre mémoire. On va chercher maintenant, dans les librairies, en fait, en open source, beaucoup de ces aspects que vous essayez de concevoir. Moi, quand j'ai fait ma thèse, j'ai tout fait à la main. Maintenant, on va chercher ces ensembles de morceaux, on les additionne et on crée quelque chose. Finalement, on n'est pas à l'origine de la création non plus. Il faut faire attention à ça si on veut que demain, nos machines soient plus créative, imaginative. On ne va pas former les gens à toujours recopier la même chose. Donc il faut laisser ouvert et pas faire absolument partout de l'informatique et du codage.
Des robots et des hommes, voilà ce qu'elle signe Laurence de Villers. Laurent Moisson.
Oui, enfin, effectivement, l'école doit éduquer, doit donner une certaine culture de l'informatique et pourquoi pas de l'intelligence artificielle. Mais elle ne doit pas oublier sa mission, hein, notamment l'école de la République, l'école française, a toujours été reconnue pour sa capacité à donner une culture générale, à donner une certaine curiosité, enseigner cette curiosité, et il ne faut pas l'oublier. Hein. D'autant que, si vous voulez, les technologies vont tellement vite que tout ce que vous allez enseigner, j'allais dire d'un point de vue technique à l'école, sera obsolète. Donc ce qu'on peut apprendre à l'école, c'est apprendre à apprendre.
Apprendre à créer.
Apprendre à créer, développer sa créativité, et pour ça, l'expérience que représente l'histoire, que représente les arts, la littérature, va donner une ouverture d'esprit qui va permettre ensuite, notamment, et ça je pense que c'est également l'un des éléments qui est intéressant avec cette école, c'est de développer ses humanités, hein, développer ce que les Américains appellent les soft skills, que nous on appelle les humanités, donc cette culture générale qui va vous donner une capacité à comprendre pourquoi vous allez employer la technologie. Parce que la technologie, pour la technologie, si vous voulez quelqu'un qui sait très très bien coder mais qui ne sait pas à quoi va servir son outil, ça n'a aucun intérêt.
Bien sûr. Voilà,
c'est une perte de temps.
Bon, on va se retrouver dans un instant. Oui, l'intelligence artificielle, est-ce la nouvelle voie royale? On essaiera de comprendre aussi pourquoi les géants américains de la tech investissent justement ce terrain, spécialement en France. On se retrouve dans un instant avec les décodeurs de l'écho sur BFM Business, à la télé, à la radio.
L'écho, c'est clair sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Alors, l'intelligence artificielle, on vous en parle ce soir, eh bien, à cause, ou grâce plutôt, à l'inauguration de cette nouvelle école. Inauguré hier sur le campus de Microsoft France. Hein. C'est tout nouveau, une promotion de 24 élèves. Ensuite, il y aura combien d'élèves? 24, ça me paraît peu quand même pour former l'intelligence artificielle. Carlo Purasanta, président de Microsoft France.
C'est une première absolue.
Oui.
Donc, on veut démarrer et nous assurer que le programme est efficace. Et ensuite, on aura d'autres promotions. Et je pense qu'on va commencer, on a déjà commencé d'ailleurs un travail avec nos partenaires. Donc là, il y en a 7 qui vont...
partenaires, ce sont des entreprises.
Ces entreprises
qui utilisent les élèves à la
donc
sortie.
Donc 12 mois de contrat de professionnalisation, ouais. Et donc ça veut dire que c'est des possibilités d'emploi pour les jeunes.
Maintenant, dont Business et Décision, business qui est là, qui est du conseil en transformation digitale, filiale d'Orange.
Exactement, voilà.
Non. Pardon?
Non.
Eh ben pardon, alors j'ai cru. Non, alors conseil non,
Nous sommes en discussion.
En discussion.
On ne peut pas dire encore filière.
Pas encore filière d'or.
Voilà. Ouais. Mais, et donc voilà, et comme Business Decision, il y en a 6 autres qui ont accepté de participer à ce programme. Après, derrière, on veut aller plus loin.
Oui,
donc nous sommes déjà en train de discuter avec tous nos partenaires pour comprendre combien et quelle typologie de compétences ils vont avoir besoin en 2019, 20, 21, ce qui nous permettra d'avoir des systèmes encore plus efficaces et avec... encore plus de jeunes.
Alors, Microsoft donc inaugure son campus le 1er mars, donc il y a quelques jours. Hein, c'est Google qui lançait une plateforme de ressources gratuites sur l'intelligence artificielle avec des informations, des exercices, des tutos, etc. Google et Facebook qui avaient annoncé en janvier, vous savez, au moment où le président de la République réunissait, donc, je crois que c'était à Versailles, hein, un grand symposium avec tous les patrons de venus du monde entier, pour participer à l'attractivité de la France. Google, Facebook qui avaient annoncé des investissements dans la formation numérique en France. Tiens, pourquoi les géants de la tech misent-ils comme ça sur l'intelligence artificielle en France? Thomas Sabatier à la tête de The Chatbot Factory.
Il y a plusieurs raisons. Je pense qu'on l'a déjà évoqué plus tôt dans l'émission. C'est que la France a un formidable terreau de recherche, mais aussi de formation, avec un système éducatif qui est parmi les plus performants dans le monde. Et on a une formidable représentante ici.
Oh là là, je crois qu'on parle d'elle.
L'idée, bien sûr, c'est d'avoir accès à tous ces talents. C'est pas pour rien que de nombreux laboratoires d'intelligence artificielle, notamment celui de Facebook, ont été créés en France. Ailleurs, dans d'autres pays, il y a des antennes aussi, mais la France est une des bases de l'intelligence artificielle.
Donc qualité des chercheurs, c'est ça. Donc
qualité des chercheurs, une appétence forte,
une appétence. Il y a un petit peu de mounir au gouvernement, ça fait jamais de mal.
Un nouveau système politique qui est en train de se mettre en place.
Il y a Cédric Villanier aussi qui a fait des propositions pour réformer l'enseignement des mathématiques, ce qui est peut-être pas non plus complètement.
Et je pense
inutile.
La mission de l'IA.
Et la mission sur l'intelligence artificielle, bien sûr, Laurence de Villers.
Et je pense au-delà de ça, c'est qu'il y a un terreau formidable pour créer une entreprise en France et que l'intelligence artificielle est un des aspects sur lequel beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui se concentrent, avec des nouveaux services qui sont créés, des nouvelles opportunités business, mais aussi des nouvelles opportunités de changer le quotidien des Français et des habitants de cette planète. Donc la France a tout pour réussir dans l'intelligence artificielle. Maintenant, il n'y a plus qu'à. C'est comme quand on crée une start-up, l'exécution fait 90% de la réussite. Eh bien maintenant, on doit aussi exécuter à plus grande échelle au niveau d'un pays et montrer que la France a tout pour réussir.
Pour réussir, on connaît bien. La France, elle est meilleure que les autres ou pas, Carlo Purasanta, alors président de Microsoft France, elle a le droit de dire non, il y a peut-être mieux ailleurs. Mais
je pense que nous avons toutes les chances pour que la France soit meilleure que les autres. Et je vais vous dire pourquoi. Donc Thomas a évoqué déjà tous les points essentiels. J'en ajouterai un. C'est-à-dire l'ambition que la France a toujours eue de leadership intellectuel et de pouvoir résoudre des grandes équations. Je pense qu'il faut cibler ça. Pourquoi je dis ça? J'entends souvent effectivement une sensation d'intelligence artificielle, ça peut avoir un impact sur les jobs. Est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est méchant? Il faut rappeler une chose fondamentale. Intelligence artificielle, ça fait 60 ans que des chercheurs essayent d'avoir ça. Il faut se rappeler de pourquoi. Parce qu'en fait, la puissance informatique, le fait d'avoir un ordinateur plus intelligent qui peut nous aider à faire des choses, ça doit servir à résoudre des équations difficiles. La planète a encore des équations qu'on ne peut pas résoudre. En 2015, en Italie, il y a eu Expo, l'exposition universelle, on a parlé d'alimentation. Il va y avoir en 2050 des milliards de personnes sur Terre. Aujourd'hui, personne sait dire comment nous allons nourrir chaque citoyen du monde en quantité et en qualité, parce qu'on veut aussi de la santé. Donc, seulement l'alimentation, c'est déjà une énorme équation à résoudre. La santé, on a des systèmes de santé, ça marche plutôt bien en France, mieux qu'ailleurs, etc. Mais est-ce que nous pouvons être satisfaits de comment nous gérons notre patrimoine de vie? Il y a beaucoup mieux à faire. La prévention, savoir à quelle maladie on peut être peut-être porté, avoir des comportements positifs, nous-mêmes, l'intelligence artificielle peut aider là-dessus.
L'environnement,
l'utilisation de l'énergie.
Bill Gates qui va investir 80 millions de dollars dans la création d'une ville intelligente dans le désert d'Arizona, quelque part. La ville, c'est aussi le nouveau terrain de chasse des géants du...
Bien sûr, mais les transports, il y a tellement d'exemples. Les transports, combien de temps nous passons encore dans le trafic? Et pourquoi? Ouais. Et pourquoi? Donc oui, les véhicules intelligents, ça peut aider, mais pas seulement. Une utilisation de bout en bout entre un train, un bus et un véhicule, qui le gère? La blockchain peut-être résoudre ça, l'intelligence artificielle peut nous aider à faire les bons choix. Donc il faut regarder combien d'équations encore non résolues, les ordinateurs vont pouvoir aider.
Laurence de Villers, chercheur au CNRS, enseignante à Sorbonne Université.
Alors, je suis d'accord avec vous qu'il y a des équations qui ne sont pas résolues et qui sont importantes à résoudre, mais qui va les résoudre? Parce qu'il y a une espèce de souveraineté derrière ces machines. Qui va décider des ingrédients qu'on met dans la machine et de formuler l'équation?
Les femmes et les hommes.
Voilà, donc il faut les commissions au-dessus qui réfléchissent à ça, en fait. À cet aspect, en fait, de gouvernance de tous ces outils, si on les met en œuvre. Et c'est, à mon avis, un vrai sujet mondial.
Laurent Moisson?
Il est certain que l'éthique, comme dans toute avancée technologique, ça pose question. Voilà. Donc il y a effectivement de la protection des données, il y a également s'assurer que certaines déviances qu'on peut envisager ou fantasmer, parce qu'il y en a un certain nombre qui sont probablement plus de l'ordre du fantasme qu'autre chose, mais bon, il faut s'en prémunir, et surtout, si vous voulez, l'éthique a un rôle de prévention, mais également est là pour rassurer les gens. On a beaucoup parlé de, voilà, il faut aller sur l'intelligence artificielle, encore faut-il en avoir envie. Et il y a aujourd'hui un débat sur l'intelligence artificielle qui est très passionnel, mais c'est dommage qu'on ne s'intéresse pas plus à ce que c'est en réalité, au niveau que ça a d'ailleurs aujourd'hui, hein, qui est très loin de des risques présentés. Et c'est probablement en montrant à un certain nombre de citoyens qu'il y a des garde-fous que ça va mettre à l'aise tout un chacun pour se dire, bon, bah, maintenant que je me sens un peu plus protégé, je peux peut-être m'y intéresser un peu plus.
On va démystifier surtout, hein, grâce à, c'est l'école de la deuxième chance aussi. On avait 42 déjà, c'est bien d'amplifier le phénomène. Et je pense que c'est effectivement très utile dans la démystification. Et pour moi, les futurs ingénieurs qui vont travailler sur ces données, sur ces systèmes d'IA, ils doivent aussi être soumis à quelques règles déontologiques.
Absolument.
Qu'il faut construire.
Oui, parlez-y. Juste, je rajouterai. Thomas Sabatier.
Je rajouterai simplement qu'on est en train de parler, si on écoute tout ce qui est dit sur l'intelligence artificielle, notamment dans les médias, on associe l'intelligence artificielle à plutôt un effet néfaste, notamment sur l'emploi.
Alors, quel média? BFM Business, on parle de la tech à peu près, quoi, de 6h du matin à 24h sans interruption.
Les décodeurs.
Voilà. Les décodeurs, c'est vrai. Voilà. Pas dans cette émission.
Non. Souvent.
Et ce qu'on voit, en fait, c'est que depuis tout à l'heure, ce qu'on est en train de dire, c'est que finalement, la clé pour résoudre le problème de l'intelligence artificielle, c'est les femmes et les hommes, comme vous disiez. Et qu'aujourd'hui, il n'y en a pas assez qui s'y penchent. Et que l'objectif de ces initiatives, qu'elles soient, peu importe la taille de ces initiatives, ce qui est important, c'est de voir que finalement, pour résoudre ces équations et pour alimenter de l'intelligence artificielle, on a avant tout besoin de l'humain.
Et je rajouterais en fait que c'est important que ce soit en mixité. Donc c'est bien d'avoir une femme avec nous, qu'il n'y en a pas assez qui sont visibles c'est dans vrai. Le monde de l'intelligence artificielle. Excusez-moi, je suis contente d'être là aussi, mais il y en a beaucoup d'autres qui ne sont pas présentes et que c'est en mixité qu'on arrive à modéliser ses comportements, ses capacités cognitives sur les machines.
Absolument, et j'ajouterais sur la partie diversité et mixité que nous avons un peu tous une responsabilité. Parce qu'en fait, les études démontrent que les filles ont un point de décrochage par rapport à la technologie environ autour des 12 ans. Donc quand on fait des interviews à des enfants jusqu'en 10-11 ans, garçons et filles, quand on leur on suscite une question sur la technologie, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu penses que tu peux faire ta vie à cause de la technologie, la réponse est exactement la même. Jusqu'à 11 ans, entre 12 et 18, il y a un décrochage d'intérêt. Non pas parce que la même fille ne l'intéressait pas avant la technologie, mais parce qu'elle commence à dire, on me dit que c'est peut-être pas pour moi, qu'il faut que je m'oriente vers autre chose. Donc je pense que c'est une culture de société qui fait qu'à un certain moment, on commence à raconter aux filles que peut-être il faut qu'elles fassent autre chose. Et c'est complètement absurde parce que je suis tout à fait d'accord, la qualité des services que nous allons créer, et pour que les services soient inclusifs eux-mêmes, de toutes les problématiques, de toutes les opportunités, on ne peut qu'avoir de la parité dans ceux qui construisent les services.
Nichelle Avoudine, étudiante de cette école de l'intelligence artificielle chez Microsoft.
Alors moi, je pense que dans ce domaine de l'informatique, il existe encore beaucoup de préjugés et de stéréotypes. Donc on dit que l'informatique est réservée pour les hommes. Alors moi, je pense qu'il faut mener une action de sensibilisation et d'information auprès des jeunes filles, et ce, très tôt. Ça peut commencer dès l'école élémentaire et leur expliquer que les maths qu'elles peuvent réussir et qu'il faut juste y croire et lancer
L'intelligence artificielle est en effet cette matière dont vous souhaitez tous qu'elle devienne quelque part une matière quasi obligatoire dans l'enseignement. Il faut quand même avoir des connaissances en maths quand même. Il faut avoir des connaissances en sciences quand même. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'ouvrir, l'élargir? Oui, Laurence de Villers.
Il faut avoir des connaissances en mathématiques pour certains. Parce qu'on peut aussi l'utiliser comme un outil. On peut l'utiliser de façon appliquée à l'histoire, à la géographie, à la philosophie. Et je pense qu'on peut aussi attirer les filles sur cet aspect pluridisciplinaire que doit avoir l'intelligence artificielle. On ne fait pas des outils pour rien, on les fait pour les appliquer à quelque chose, avec des données qui sont l'essence même. Et là, on peut attirer beaucoup, beaucoup de filles.
Et les femmes sont fantastiques en mathématiques. Elles sont fantastiques en mathématiques.
Ah, je ne sais pas.
oui.
Bien, vous le dites. Carlo Curacental, président de Microsoft en France. Oui, on voit donc vous impliquer intensément dans cette intelligence artificielle, dans cette formation comme Facebook, comme Google. Vous essayez de former des jeunes. C'est quoi vos intentions? Alors certains vont applaudir, vont dire c'est formidable, il va former des jeunes, justement des jeunes peut-être en décrochage. D'autres, ils verront peut-être une façon pour vous d'accaparer les meilleurs talents aussi chez Google, chez Microsoft, chez Facebook.
C'est pas du tout notre philosophie. D'ailleurs, là, nous sommes pas en train de dire on prend des personnes et on les met chez nous pour qu'ils restent chez nous. On est en train de dire on essaie de créer
des. Vous allez quand même les repérer, quand même les meilleurs.
Ce
qui est normal. Enfin,
mais on le fait pour notre écosystème. C'est-à-dire que notre intention, c'est celle de créer des opportunités qui vont créer des opportunités qui vont créer des opportunités. Donc on investit pour créer une avalanche d'opportunités. Et le monde de la technologie et de la puissance que ça peut amener sur une économie qui est celle française est tellement grand, tellement vaste, que c'est pas justement, c'est pas seulement 24 ou 100 ou 1000, c'est comment est-ce qu'on crée des vagues. On veut créer une vague positive sur la technologie.
C'est pas aussi une façon de vous attirer les bonnes grâces des pouvoirs publics. Vous savez, en ce moment, souvent, on monte du doigt les GAFA pour des tas de raisons, hein, diverses et variées, le côté intrusif, omniprésent, ils payent pas leurs impôts, etc. Les gens du numérique, quelque part, vus parfois comme des ennemis, non, quelque part, vous essayez de vous donner aussi une bonne image au travers de cette école ou pas?
Je pense que nous opérons depuis 30 ans en France et je pense qu'on a une bonne image parce que je pense qu'on a créé déjà beaucoup d'opportunités, de transformations dans le métier des personnes. On est dans le quotidien de millions de Français depuis 30 ans. Donc je pense pas qu'on a besoin d'une image. Je pense néanmoins que la technologie, comme le disait Thomas, parfois a besoin d'un peu plus de pédagogie parce qu'effectivement, à force de dire pour des questions d'ailleurs pas toujours claires de pourquoi on critique tel ou tel champion de la technologie, on risque de créer une vision comme s'il y a des bons et des méchants. Je pense pas qu'il y a des bons et des méchants. Je pense qu'il y a une économie française. Il y a une économie française qui n'est pas et n'est plus, il faut s'en rappeler, isolée par rapport à une Europe, par rapport à un monde. Et ça veut dire que la compétitivité de la nation dépend de la rapidité, de la qualité, de l'absorption d'un certain nombre de nouvelles technologies qui va faire en sorte que chaque entreprise française, grande ou petite, parce qu'aujourd'hui, le cloud, l'informatique, l'intelligence artificielle, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les grandes banques, les grandes assurances ou les grands industriels.
Non, non.
Une PME peut faire des choses extraordinaires parce que la donnée, ils ont des données, il y en a plein dans la nature. Donc ça veut dire que c'est une grande opportunité, et il faut que les aspects positifs soient bien compris par tous.
Bon, c'est la nouvelle voie royale, cette intelligence artificielle, c'est la nouvelle matière qu'il faut enseigner. Vous me dites un mot, chacune, allez, Laurent Moisson par exemple.
Oui, effectivement, la voie royale. Et pour témoigner sur ce qui vient d'être dit par Carlo à l'instant, nous, on est ravis d'accueillir des étudiants de cette école, notamment parce qu'ils sont agnostiques d'un point de vue technologique. Hein, c'est-à-dire, c'est pas uniquement les technos Microsoft.
Je comprends.
L'est également.
Ouais. Nichal, Avoudine, fier d'être dans cette école?
Complètement fier. Et je suis. On est conscient de l'opportunité qu'on a. Et j'espère vraiment être à la hauteur de vos attentes. Et merci de nous avoir accueillis. Et j'aimerais remercier aussi nos formateurs, notre directrice Louise, Laurent, et ma classe, Julien, notre délégué.
Courrez au César, voilà. C'est bien.
Sans la musique.
Sans la musique, vous coupez les intervenants. Laurence de Villers.
Donc, moi, je suis pro intelligence artificielle, puisque j'enseigne aussi.
Mais donc, c'est la nouvelle voie royale.
Il faut l'appréhender avec la fair IA, c'est-à-dire avec l'IA loyale, éthique et solidaire. Bienveillante également.
Thomas Sabatier.
L'intelligence artificielle comme révélateur de la créativité d'un pays, d'une nation et du potentiel de l'humain.
Eh ben, merci à tous. Carlo Purasanta, président de Microsoft France. Nichal Avoudine, bonne chance à vous.
Merci.
Longue vie professionnelle, étudiante à l'école de l'intelligence artificielle de Microsoft. Laurent Moisson, vice-président de Business et Décision, entreprise associée à cette école qui prend des étudiants en apprentissage et spécialisée dans le conseil en transformation digitale. Laurence de Villers, auteur des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalité. Elle est chercheuse au CNRS, chercheur au CNRS. Et puis Thomas Sabatier, fondateur de The Chatbot Factory, qui travaille notamment avec Google, Facebook, BNP, Auchan, Air France.
Et Microsoft.
Bah oui, bien sûr. Start-up spécialiste des messageries intelligentes. Voilà, la tech, hein, on en parle toute la journée. Tech & Co, Sébastien Coenon, Afterbiz, David Jacot, Stéphanie Collot, et puis évidemment avec Stéphane Soumier le matin, Good Morning Business, avec Frédéric Simotel cette semaine. On se retrouve vite avec les décodeurs de l'écho.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.